Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour.
Vous êtes le président du comité stratégique des magasins Leclerc. Enfin, mais vous aviez complètement disparu, vous, adepte des micros, omniprésent dans les médias. Vous étiez beaucoup plus discret. Vous étiez où?
D'abord, je vous regardais vous friter avec Dominique de Villepin.
Vous étiez donc chez vous devant votre télé. Mais j'imagine que c'est pas la seule cause. Vous avez... plutôt préférer être discret. La colère des agriculteurs, c'était pas tout à fait agréable, j'imagine.
La colère des agriculteurs, c'est un sujet. J'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sans venir sur les plateaux. La première semaine, j'étais très présent avec eux, jusqu'à ce que M. Attal descende d'ailleurs à Toulouse. J'ai trouvé que... En fait, j'étais assez d'accord avec beaucoup de choses exprimées par les agriculteurs. On pourra y revenir. Mais après, le nom de la distribution, des enseignes de distribution, le nom de Michel-Édouard Leclerc a vraiment été jeté en pâture.
Par qui? Vous dites jusqu'au moment où Gabriel Attal est descendu à Toulouse. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'à partir du moment où les politiques se sont emparés de cette colère, de ce sujet, vous vous êtes retrouvé quoi? Bouc émissaire?
On s'est retrouvé la cible entre FNSEA, JIA... Et Fédération des agriculteurs, jeunes agriculteurs et gouvernement. Et bon, j'ai lu L'art de la guerre. L'esquive est une manière de renvoyer les deux adversaires dos à dos. Et j'ai eu l'élégance de laisser le ministre de l'Agriculture essayer d'expliquer sa politique agricole.
Est-ce que c'est de l'élégance ou est-ce que c'est une forme de lâcheté quand même?
C'est une forme, non. Je pense que c'était à lui que s'adressait cette colère agricole, qui était aussi une colère sociale. Ça s'adressait au gouvernement, ça s'adressait, bien sûr, pour des raisons pratiques, sur certaines filières, à la distribution, et à l'industrie. Mais globalement, c'était une crise politique, avec des surenchères syndicales, avec des surenchères politiques. Et donc, à un moment donné, il vaut mieux pas se trouver au milieu du champ de tir.
On a essayé de vous mettre au milieu du champ de tir. C'est un peu ce que vous laissez entendre à propos du grand débat. C'était il y a donc une semaine tout pile, au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron qui avait prévu un grand débat. Et parmi les invités de ce grand débat, vous deviez être en première ligne. Tout ça a fini en fiasco. Vous n'y avez pas été. Vous avez même considéré que c'était un coup de com'.
Moi, je suis un homme d'action. Il y a des problèmes, je veux bien participer à les résoudre. Il fut un temps, pas si vieux, où des ministres de l'Agriculture, comme Le Foll, comme Le Maire, quand il y avait un problème, ils nous réunissaient dans une salle, producteurs, transformateurs, distributeurs, et ils disaient, même de manière un peu autoritaire, vous pouvez les imaginer, vous ne sortirez pas de cette salle tant qu'on n'aura pas résolu le problème. Mais au fond, le ministre de l'Agriculture cherchait à fédérer les professionnels des filières pour essayer de trouver des solutions. Là, voilà une crise agricole. Vous voyez, pendant que, c'est vrai, beaucoup ici à RMC, à BFM, on disait « Où est-ce qu'il est parti, Michel-Édouard Leclerc ?» Moi, pendant ce temps-là, j'ai pas eu un seul coup de téléphone d'un leader syndical pour résoudre un problème, et j'ai pas eu un seul coup de téléphone du ministre de l'Agriculture qui se permettait sur les plateaux de me taper, mais en même temps... Il n'avait rien à me demander. Donc moi, je considère aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité gouvernementale à dire quelle est la politique agricole, qu'est-ce qu'on va défendre en Europe, est-ce qu'on défend une politique agricole exportatrice, comme on disait autrefois, le pétrole vert de la France, il faut exporter, il faut être productif, et donc toute la PAC, le produit de la PAC, de la politique agricole commune doit aller à la productivité.
On va aller sur le fond, Michel-Édouard Leclerc, parce que moi je veux comprendre aussi ce que vous allez faire pour répondre à cette colère. Qu'est-ce que vous allez répondre, par exemple, à Michel Biérot, qui propose de s'associer dans la volonté d'avoir un prix du lait, du porc, du bœuf qui ne soit pas trop bas. Quelle va être votre action aussi sur Egalim, sur les centrales d'achat qui ont contourné la loi?
Non. Ça c'est pipeau. Ça fait partie.
Comment ça c'est pipeau?
Oui, c'est pipeau.
Vous n'avez pas été négocier les prix à Bruxelles avec votre centrale d'achat ?
Mais nous avons tous des centrales d'achat à l'étranger, et depuis 2006, alors c'est pour vous dire que ce n'est pas pour contourner la loi Egalim qui date que d'il y a 3-4 ans. Mais voilà, ce genre de truc, on balance en pâture ça, et démerdez-vous avec ça.
Eh bien, prenons le temps, Michel-Edouard Leclerc, c'est pour ça aussi que vous êtes à ce micro, j'imagine, pour ne pas qu'il y ait ces rumeurs, ces fantasmes. Sauf que là, moi, j'ai quand même les décisions judiciaires qui sont sous mes yeux. Il y a eu une enquête de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF. Après cette enquête, le ministère de l'économie, Bercy, a estimé que vous aviez mené des pratiques restrictives de concurrence. En gros, ils disent que vous vous êtes entendu avec votre colloque de centrale d'achat, si je peux me permettre, c'est-à-dire, il me semble que c'est le néerlandais, vous vous êtes retrouvés ensemble à Bruxelles pour imposer aux fournisseurs, c'est les mots, imposer aux fournisseurs qui approvisionnent vos magasins en France, de négocier avec Eurelec en Belgique et de conclure des contrats faisant appliquer la loi belge.
Non, d'abord, depuis 2006, sachant que nous ne pesons que très peu par rapport aux multinationales, Leclerc, ça représente 2,6% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé. Hein. Donc, en fait, on s'est rapproché des Coopitalia, on s'est rapproché du groupe Rewe, Allemagne, l'enseigne Penny aussi. Et juste là, dernièrement, de Ahold Delhaize, Pays-Bas, Belgique, mais aussi États-Unis. On s'est rapprochés, ça nous a permis d'ailleurs, entre nous, d'acheter des masques pendant le Covid, ça nous a permis d'acheter des autotests et de faire baisser les prix pendant cette période Covid, parce qu'on s'est entraidés. Et chaque enseigne de distribution française, finalement, a découvert que l'Europe, c'était aussi pour nous, que c'était pas simplement pour Air France KLM, vous voyez, que c'était pas simplement des alliances entre banquiers, entre assureurs, entre équipementiers automobiles. Donc nous avons fait, avec les Allemands notamment, Leclerc, nous avons fait non seulement une centrale d'achat, mais une société commune avec des coopérations qui nous permet aussi de lancer des filières de
licence OGM. Mais j'entends bien, et d'ailleurs pendant longtemps vous vous en êtes...
Et on assume ça.
Vous avez dit, c'est aussi grâce à ça qu'on a des prix plus bas. On va y revenir, parce qu'au fond, est-ce que c'est pas le retour de boomerang de cette question d'avoir des prix plus bas, mais donc forcément d'acheter les denrées moins chères?
Vous avez entendu un seul fournisseur, un seul groupement de producteurs, un seul groupement de coopératives dire qu'on leur a tordu les bras à Eurelec?
Alors, ils n'ont pas dit à moi, mais ils l'ont, semble-t-il, dit à la DGCCRF, qui a estimé qu'il fallait vous condamner 117 millions d'euros d'amende.
Il y a confusion entre les amendes et des restitutions de chiffre d'affaires. Quand un contrat n'est pas bien...
Les 117 millions d'euros, ils vous les ont bien réclamés.
Tous les ans, l'administration nous réclame des sous. Tous les ans, nous avons des contentieux. Il y en a qu'on garde.
Et là, le contentieux, c'est avec le ministère de l'économie, quand même.
Voilà, mais tous les contentieux sont avec le ministère de l'économie. La plupart des contentieux sont avec le ministère de l'économie. Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons pas de contentieux avec des entreprises françaises. D'abord, pour une raison très simple, c'est que nous ne négocions pas des produits agricoles. Donc, première chose. Deuxième chose.
Même pour vos propres marques ?
Même pour nos propres marques. Nous ne négocions pas des produits agricoles à Eurelec, centrale d'achat de Leclerc et de Rewe. Et désormais,
qu'est-ce que vous négociez à Eurelec ?
Nous négocions Mars, Procter, les 35 multinationales. Comment Bruno Le Maire nous a envoyé négocier. Rappelez-vous l'histoire du panier qu'il fallait que...
Le panier anti-inflation.
Voilà, il avait considéré qu'il y avait 75 multinationales qui n'avaient pas fait le job. Deux rapports de l'Inspection Générale des Finances avaient estimé que dans les 21% d'inflation que les Français se sont tapés là en deux ans, il y avait beaucoup de dividendes et beaucoup de marges d'entreprises industrielles. Donc nous sommes... Les entreprises avec lesquelles nous négocions aujourd'hui en Europe sont des multinationales.
Mais Michel, vous le comprenez bien, il y a quelque chose de très, paradoxal à se retrouver à parler toute la journée, ici même ou ailleurs, de la loi Egalim, de la loi des Crozailles. Et en réalité, tout cela, vous le contournez en partant négocier à l'étranger. C'est légal. Mais tout de même, ça paraît fou. On a l'impression qu'on parle d'un écran de fumée quand on parle de la loi française.
Ça sert à rien que je dise qu'on ne contourne pas si vous continuez à...
C'est le mot utilisé par le ministre, encore une fois, de l'économie.
Mais on n'a pas que des copains, d'accord ? C'est
le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, conférence de presse à Bruxelles, a dit à propos de Rélec, ouais, vous a même cité en disant que vous contourniez la loi Egalim et qu'il fallait donc un Egalim européen. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ben, d'abord, quand on est président français, on étudie ses dossiers. On va pas en Belgique dire que quand une société est belge, elle contourne le droit français. D'abord parce que chaque pays a sa législation. Dans le domaine audiovisuel, Arte, c'est une coopération franco-allemande. Le siège est à Strasbourg. On dit pas qu'il respecte pas le droit allemand. C'est pas parce que Leclerc a une centrale d'achat en Belgique qu'il respecte pas le code de la route en France, qu'il respecte pas le code de la concurrence en France. Faut arrêter les conneries.
Pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron?
Mais parce qu'on a été jeté en pâture et ça n'a pas marché. Les agriculteurs sont pas idiots, mais ça a été, notre nom est cité, mon nom était cité tous les jours, et d'ailleurs on en a discuté avec les autres collègues de la distribution qui eux-mêmes ont diminué leur présence sur les plateaux. Enfin, vous l'avez bien vu.
Oui, mais est-ce qu'au fond c'est pas le retour de bâton? Et d'ailleurs, on en prend tous notre part. On a l'impression que ça fait 2 ans que au ministère de l'économie, dans nos différentes enquêtes auprès des Français, on a un seul mot à la bouche, qui est la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Mais au fond, vous avez fait d'un slogan du prix le plus bas. Je me souviens du lancement de la baguette à 29 centimes. On pourrait parler de la côte de porc à 2 euros. Est-ce que c'était franchement une bonne nouvelle d'annoncer, ouais, tout ça? Est-ce que c'était une bonne chose?
Oui, j'assume ça. Et parce que le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation première des Français. Et c'est parce qu'on fait beaucoup de macroéconomie dans les discours politiques, on parle à partir de la Banque centrale, on parle des taux d'intérêt. Mais l'économie, c'est au quotidien, dans le portefeuille des gens. Il y a les loyers, il y a le coût du crédit, il y a ce qui est dépensé dans les caddies, dans les magasins, il y a ce qu'on paye à l'autoroute. Et oui, ça, la démocratie, ça tient aussi à la considération qu'on donne dans la capacité d'accéder à des biens dans la société. Ça, c'est très important. Et donc, oui, je pense que avant la crise agricole, il y a une crise des gilets jaunes. Et dans la crise des gilets jaunes, rappelez-vous, c'était le prix des carburants. Alors moi, on peut pas me demander un jour, avant votre émission, on peut pas me demander un jour au ministre à Matignon de venir vendre de l'essence à perte ou de l'essence à prix coûtant pendant 6 mois et en même temps d'appliquer une loi où je dois prendre 10% de marge sur des produits industriels, sur des produits alimentaires. Ou encore, comme ça doit être le cas maintenant, de diminuer les promotions sur les lessives.
C'est ce qu'on appelle la fameuse loi
sur le Tampax, etc. Mais c'est déconnant. Donc moi je suis, comme ils disent dans la politique, je suis droit dans mes bottes. Enfin, j'espère être plus souple. Mais nous avons une seule philosophie, c'est d'essayer de rendre les biens accessibles. On a une mutation économique plus écologiste, plus vertueuse sur le plan alimentaire, sur le plan de l'écologie. Il faut qu'on accompagne ça. Faut pas que ce soit le bio pour les bobos. Faut pas que ce soit le moins de sel, moins de sucre, mais beaucoup plus cher. Donc 21% d'inflation.
On va rentrer justement là-dedans. Vous aviez dit que au fond cette loi qui vous impose sur certains produits 10% de marge, qui depuis une semaine maintenant vous interdit les super propos sur l'hygiène, c'est une loi, je cite, pour emmerder les pauvres. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un tiraillement entre le fait de trouver des prix bas effectivement pour les plus modestes et de l'autre rémunérer le mieux possible malgré tout les producteurs dans ce pays?
Alors je pense qu'on peut faire les deux. Vous voyez, on peut faire les deux. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde parle de Casino aujourd'hui. Casino, c'est une enseigne qui a explosé. D'accord? Elle était très chère, plus 30% plus chère qu'un Leclerc. Et comme quoi les consommateurs savent choisir leur enseigne. Et donc Casino aujourd'hui est reprise pour partie par Intermarché, pour autre partie par Auchan. D'accord ? Intermarché et Casino sont dans la même centrale d'achat. Ils achètent aux mêmes conditions. Intermarché est pourtant 15% moins cher au moins que Casino.
Ça veut dire que la marge n'est pas la même.
Ça veut dire que c'est pas les conditions d'achat aux agriculteurs qui font les politiques commerciales des enseignes. Ça veut dire que les politiques commerciales des enseignes, elles peuvent choisir d'être chères, par monoprix est cher, et ils s'en cachent pas, et ils se mettent dans des endroits où il y a du fort pouvoir d'achat. Il y a plus de monoprix à Landerneau, mais il y a des monoprix à Paris. Par contre, Leclerc, on a choisi, nous, de travailler avec des très petites marges, à conditions d'achat qui sont pas si différentes que ça des autres distributeurs. OK? Et ça, c'est un choix, c'est une volonté politique, c'est notre marque de fabrique et ça n'a rien à voir avec le prix payé aux agriculteurs. Et d'ailleurs, Par rapport à ce que dit Michel Biro, moi je suis entièrement d'accord avec lui. Michel Biro, donc, c'est le PDG de Lidl. Je suis entièrement d'accord avec lui. La loi prévoit qu'un premier contrat, avant toute négociation avec les distributeurs, garantisse à l'agriculteur la lisibilité du prix par lequel il va être payé. Donc je suis pour ça.
Pour cette transparence.
Je suis pour cette... D'abord, il faut qu'il y ait des contrats entre les agriculteurs et les transformateurs. Et les transformateurs industriels.
Et moi, quand vous négociez avec
Lactel à l'affaire,
on a bien compris. Ouais. Hein, il y a effectivement trois acteurs. En gros, quand le produit arrive dans notre rayon, il y a l'agriculteur au départ, il y a le transformateur au milieu, ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire, et puis il y a vous, le distributeur à la fin. Aujourd'hui, quand vous négociez uniquement avec le numéro 2, c'est-à-dire avec Danone. Vous négociez avec Danone, et c'est Danone qui négocie avec le producteur de lait.
Et moi, je ne sais
Est-ce que vous seriez d'accord avec ce que dit Michel Biro, c'est-à-dire en fait, vous voudriez que vous soyez tous les trois autour de la table.
Alors, soit on est tous les trois autour de la table, soit il nous garantit Danone qu'il a versé un certain prix du lait.
Vous dites que vous êtes d'accord avec Michel Biro. Lui, il estime quand même que vos relations ne sont pas si simples. Et il a dans son viseur cette fameuse côte de porc à moins de 2 euros le kilo. J'aimerais qu'on écoute.
Certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 la semaine dernière. Alors qu'on sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83.
Vous connaissez les uns et les autres.
Non, moi je ne les connais pas.
Ils vous parlent pas? Ils vous parlent pas, Michel-Édouard Leclerc? Ils vous parlent pas, le patron d'Intermarché? Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours considéré que vous étiez pas dans la cour des grands?
Peut-être, peu importe, mais même moi j'ai pas envie de parler à mes concurrents. On est concurrents.
Qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, je le laisse un peu mijoter dans son truc, parce que Michel Biro, c'est quand même lui, c'est d'ailleurs un grand monsieur. C'est un monsieur qui nous a réveillés en créant des gammes premier prix, parce qu'en Allemagne, Lidl, Aldi aussi, sont des monstres très très forts du prix bas. Hein. Simplement, Michel, il a fait une chose, c'est qu'il a oublié d'en faire des premiers prix. Il a un peu embourgeoisé ses magasins, il a voulu monter en gamme, et donc il a perdu des parts de marché cette année, et donc il est moins crédible sur le thème des prix.
Mais il dit contourner, il contourne la loi.
Vous voyez bien, mais en même temps, en quoi c'est contourner la loi que de vendre moins cher?
Mais vous le referiez là, dans le contexte actuel, les côtes de porc à 1,98?
Mais on vient de le faire.
Sans culpabilité là-dessus?
Mais ça dépend du rapport qu'on a avec le producteur. Mon producteur de porc, il avait trop de porc. Un porc, il y a un temps d'engraissement. Il y a un moment où ça coûte trop cher de lui donner à manger. Il ne fait pas de la bonne viande, il fait du gras avec. Donc on fait du dégagement. On achète un cochon, le cochon est désossé, il y a beaucoup de pertes, et après on en fait de la côte de porc, mais aussi du rôti, etc. Il y a une répartition. Je pense qu'on n'aurait pas dû, dans le contexte de la crise, le centre Leclerc qui a fait ça, l'a fait de manière peut-être...
Sans targuer.
Ouais, il n'aurait pas dû s'en targuer. Bon, maintenant, c'est des cas, vous voyez, et ça ne remet pas en cause une philosophie qui fait que le prix d'achat ne fait pas le prix de vente. Et d'ailleurs, je voudrais insister là-dessus. Tout le monde veut que la loi fasse le prix. D'abord, ça, c'est une connerie.
Le président lui-même a parlé de prix plancher.
Ouais. La loi fera jamais le prix. C'est le marché qui fait le prix. La deuxième chose, c'est que même si vous avez un prix, même un prix plancher, et que vous n'avez pas de consommateur, eh ben, c'est tintin, il n'y aura pas de rémunération. Vous vous retrouvez. Donc, faut arrêter de conceptualiser tout. Faut être très pragmatique. Un marché, ça doit être très flexible.
Là, c'est trop théorique. Oui. Sur la question du prix du lait, par exemple, puisqu'on sait que c'est un des points... Alors, il y a eu une très forte inflation. Hein, Gaëtan Mélin le disait ce matin sur BFM TV avec son fameux panier, le panier de la ménagère. Quand on regarde effectivement à quel point le lait qui est passé de moins d'un euro le kilo, d'un euro le litre, à aujourd'hui en moyenne 1,27 €, c'est considérable. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord, là encore Michel Biro dit pourquoi pas, pour arrêter de dire c'est moi qui ai le lait le moins cher?
Mais je ne veux pas me situer par rapport à Lidl, mais Leclerc a plus de contrats tripartites avec les producteurs que Lidl qui a... Mais ne serait-ce que par le fait qu'il a beaucoup moins de références...
Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter de se dire, on va faire le lait moins cher? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'inverse qu'il faut faire? Vous parliez tout à l'heure de vos côtes de porc à moins de 2 euros. Bon, finalement, si on le fait, il ne faut peut-être pas non plus en faire une pub. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inverse ne serait pas vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas dire, nous, on a décidé que désormais, le lait, on le trouverait, il faudrait y mettre le prix, mais parce qu'on se met tous d'accord.
Mais si on se mettait tous d'accord, il faudrait à ce moment-là que le politique le défende aussi au niveau des frontières. Parce que faire payer plus cher le lait aux Français... alors qu'il y a du lait moins cher à côté. Et il faut à ce moment-là faire comme les Suisses, il faut fermer les frontières. Donc c'est un ensemble où le politique doit cadrer ça.
Et qu'allez-vous changer
aujourd'hui?
Qu'allez-vous changer, Michel-Edouard Leclerc? C'est-à-dire, qu'allez-vous changer? Il y a eu cette crise de et on a l'impression que là, c'est comme si vous la voyez comme une parenthèse.
Non mais attendez, d'abord, nous, on a vachement bien marché. Leclerc, cette année, dans cette année d'inflation, il y a eu 1,5 million de clients en plus qui sont venus chez Leclerc, qui sont partis de chez Lidl, qui sont partis de chez Casino et qui sont venus chez Leclerc. Donc je vais pas m'auto-flageller. Et s'ils sont venus, c'est pas pour les beaux yeux de Michel-Edouard, c'est pas parce que je passe avec vous à la télé, c'est parce que dans le portefeuille, il y avait moins de dépenses dans les centres Leclerc. C'est aussi parce que j'anime une coopérative avec des propriétaires de magasins qui, comme Système U, comme les Intermarchés, on investit beaucoup dans l'attractivité de nos magasins. Donc voilà, on a ça. Nous, on peut apporter. On est la seule chaîne de distribution qui avons cru en volume en France cette année. Donc, le prix bas, c'est pas acheté comme ça, d'accord? La deuxième chose, parce que ça sert à rien. Si on vous garantit un prix, mais que vous vendez pas, vous restez avec. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année, 2024, on n'en parle plus là, on a été négocié des baisses.
L'inflation est derrière nous?
Et l'inflation est derrière nous. Et Bruno Le Maire viendra pouvoir vous dire, ou Olivia Grégoire, qu'effectivement, l'inflation est derrière nous. Et heureusement qu'on a eu ces centrales d'achat internationales. Nous avons réussi à casser ce rythme d'inflation. Il faut maintenant passer des nouvelles commandes pour que les nouveaux accords soient fictifs. Quel que soit...
Soit effectif et non pas fictif, j'imagine.
Oui, pardon, excusez-moi.
Vous avez dit l'inverse de ce que vous pensiez, ou en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensiez, mais en tout cas, vous estimez maintenant
pour
que ça se voit dans les rayons,
oui.
Il faut que ce soit appliqué, c'est pas gagné.
Je pense qu'on aura une inflation à la fin du semestre 2024 qui sera inférieure à 3%. Donc, avec en plus des poches de baisse importantes à l'intérieur de cette inflation. Donc oui, on a gagné cette bataille. C'est-à-dire que pendant la crise agricole, et ça ne portait pas sur le prix de la rémunération des agriculteurs, mais toutes les grandes marques multinationales, oui, elles ont perdu des volumes, donc elles nous ont fait des prix.
Merci Michel-Edouard Leclerc d'être venu donc enfin répondre aux questions. 8h54 sur RMC BFM TV.